sur Jet FM commence à présent une session musicale en live avec de la musique indienne portée par le trio Vichitra qui viendra à Cosmopolis à Nantes le jeudi 29 juin pour un concert de musique traditionnelle et improvisée d'Inde du Nord principalement. On va en reparler avec eux dans un instant. Vichitra, c'est un trio qui joue sur des instruments finalement assez rares, la Vichitra Vina, qui est un instrument très particulier, le Subarbar, qui est un sitar basse, et puis des tablas et différentes percussions, et on va écouter tout de suite ce qu'est cet instrument, la Vichitra Vina. Le trio est formé de Binkar, qui joue la Vichitra Vina, Thomas Jacot au sitar, et Alexis Vesguerer au tabla. Ce sont les deux derniers, Thomas et Alexis, qui sont ici présents dans les studios de Jet, qui sont en train de s'installer en ce moment et de caler une petite session live avec Lucas et Jean-Félix qui m'aident largement pour la partie technique de cette émission en direct. Et donc on aura le droit à une session musicale live qui va forcément aller très très bien avec ce début d'après-midi écrasant de chaleur. On écoute le son de la Vichitra Vina, instrument très ancien et très particulier, très imposant aussi dans sa forme. On écoute un enregistrement de la Vichitra Vina joué par Binkar pour commencer cette émission spéciale.
Oh,
sur Jet FM en ce début d'après-midi, un peu de musique indienne, ça fait vraiment du bien. Et j'ai le plaisir de recevoir une partie, deux membres du trio Vichitra, qui nous fait l'honneur de venir en direct dans les studios de Jet FM cet après-midi, à la fois pour une session live tout à l'heure, et puis pour discuter un peu de ce projet, ce rassemblement de trois musiciens autour de la musique indienne pour un concert très bientôt, le jeudi 29 juin à l'Espace Cosmopolis à Nantes. Alors, bonjour Alexis.
Bonjour.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux membres de ce trio. Vous jouez respectivement Alexis des tablas et percussions et oui. Thomas des sitars, différents sitars.
Voilà, le sitar et le sourbarque et le sitar basse.
D'accord. Alors, on va essayer de voir un peu quelle est la spécificité de votre trio, puisque on l'a entendu à l'instant avec donc le troisième membre qui n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est un peu souffrant.
Oui, c'était Binkar donc.
Voilà, Binkar qui joue de cet instrument particulier qui donne son nom à votre projet.
À notre trio, oui.
Vichitra Vina. On le voit tout de suite, l'idée c'est de faire certes une musique traditionnelle du Nord plutôt hindoustanie, mais avec ces instruments très anciens, très particuliers, qui peuvent être le sitar basse ou cette Vichitra Vina. Ou même les percussions que tu joues, Alexis, qui ne sont pas forcément des tablas.
Alors, parce que je joue aussi du pakawatch, qui est l'ancêtre des tablas, qui est un fût avec des peaux sur les côtés. Et la particularité un peu de ce trio, Vichitra, ça veut dire hors du commun en sanskrit. Donc la Vichitra Vina, son instrument, est vraiment hors du commun maintenant en Inde, car c'est vraiment en voie de disparition. Il n'y a plus que 7 joueurs qu'on joue professionnellement dans le monde. Il y a eu un problème de manque de professeurs pendant plusieurs décennies. Il y a eu un gros problème chez les luthiers aussi. Personne ne savait plus vraiment comment en faire. D'ailleurs, si Benoît était là, il vous raconterait l'anecdote. Il a mis 5 ans à trouver vraiment un luthier qui pouvait lui faire une copie de sa vieille Vichitra. C'est très lourd à transporter, donc il lui faut en moins 2 ou une casse. Donc il a mis 5 ans à trouver le luthier en Inde, dans le Maharashtra, à Miraj. Et c'est assez hors du commun parce que finalement, en tout cas, on n'a jamais entendu parler de trio comme ça qui propose un dialogue entre la Vichitra Vina donc et le sourbarque et le sitar basse, qui a aussi sa petite histoire, qui était originellement créée pour une raison assez précise dans la famille musicale de Thomas. Peut-être que tu peux en dire plus là-dessus.
Voilà, donc en fait, dans l'ancienne musique de l'Inde du Nord, qui s'appelle le Drupad, c'est un répertoire un petit peu différent, et donc il y a des instruments propres, comme la Rudravina dans l'Inde du Nord. Et donc en fait, la Rudravina, c'était un instrument qui s'enseignait uniquement de père en fils, et donc dans notre famille musicale, l'arrière-grand-père de mon maître, en fait, avait très envie d'apprendre le répertoire du Drupad et de le transposer sur le sitar. Donc, il a créé, il y a à peu près 300 ans, un sitar basse qui s'appelle le Sourbar, qui permettait de jouer ce répertoire de l'ancienne musique de l'Inde, le Drupad.
Parce que je connaissais pour ma part du Drupad vocal,
avec
notamment justement une descente dans les basses qui est assez fondamentale, j'ai l'impression, dans cet art-là.
Oui, dans le Drupad,
C'était cette idée-là, justement, d'aller creuser les basses qui ne sont pas dans le sitar originel.
Alors en fait, le Drupad, à la base, c'était plus une musique de temple.
Dévotionnelle.
Donc, musique dévotionnelle, où le but c'était de se connecter avec les divinités.
Ils ne jouaient pas pour un public, forcément.
Donc c'est pour ça qu'ils vont beaucoup plus dans les basses, et donc ils peuvent prendre plus le temps, c'est une musique plus lente, plus méditative. Et ensuite, au XVIIe siècle, est arrivé un nouveau style dans le nord de l'Inde, avec l'influence perse et des invasions mogoles. Et donc c'est le Kyal est apparu, qui est une musique de cour. Donc là, on jouait pour les rois, les maharajas, les sultans. Et donc là, il y avait plus de compétition entre les musiciens. Donc la technique s'est développée, la vitesse s'est développée.
Chaque roi avait ses musiciens, en fait. Et il y avait un peu aussi des battles entre musiciens de cour pour savoir quel roi allait avoir les meilleurs musiciens, tout ça. Donc ça se dépassait en virtuosité. Ça cherchait vraiment à aller au-delà de celui d'à côté. Donc ça crée vraiment une scène très riche.
Et donc les instruments aussi à cette époque-là ont évolué. Et donc des vinas, on est arrivé au sitar avec l'influence qui venait de Perse et avec les cordes sympathiques aussi qui viennent d'Afghanistan. Et donc le Kyal, c'est plus une musique, une vieille fusion entre l'influence perse et la musique qu'il y avait en Inde. Et donc, dans notre projet, on présente les anciens instruments de l'Inde et les plus modernes, même s'ils sont toujours du XVIIe siècle.
Oui, c'est ça. C'est relatif, la modernité. c'est, vous le disiez, tout à fait inédit en Europe, en tout cas, en Inde aussi, puisque visiblement, c'est pas... Est-ce qu'il y a même des incompatibilités, a priori, d'école entre ces instruments-là ?
Alors, Benoît et Thomas, en tout cas, jouent deux écoles de musique de style assez différent. Et justement, l'idée de ce projet, c'est c'est une création originale, mais tout en respectant le classique et les formats classiques, où chacun peut vraiment présenter son style, de manière à ce qu'on puisse voir dans le concert vraiment les deux styles qui se répondent comme ça.
Et dans la musique classique indienne, ils ont un format qu'ils appellent le Jugalbandi, où aussi il y a différentes familles de musiciens qui se retrouvaient sur scène et qui montraient un petit peu ensemble leurs différences. Et qui essayaient quand même de jouer ensemble, même si des fois il y avait un petit peu de compétition également.
Donc vous seriez plutôt dans cette forme-là ?
Voilà, avec un petit peu moins de compétition, on essaie plutôt de faire de la musique ensemble que les uns contre les autres. Mm-hmm. Mais on veut quand même chacun montrer un petit peu l'école qu'on a apprise et nos particularités.
Parce que vous êtes tous les trois français, oui. Et vous avez tous appris en Inde avec des grands maîtres. Mmh. Et comment vous vous êtes rencontrés ? C'était après avoir appris chacun de votre côté ou c'était d'emblée ?
On a tous commencé chacun de notre côté. Benoît, il y a plus de 24 ans. Alors pour l'autre petite histoire, en fait, il y avait quasiment plus de professeurs de Vishitravina. Il a rencontré le sien qui lui a enseigné vraiment les techniques fondamentales. C'était un très bon professeur et au bout de 4 ans, il est décédé. Et donc, il n'y avait plus de professeur de Vishitravina ensuite. Et donc, il a dû travailler pendant un grand moment sur enregistrement pour essayer de retrouver le style de son prof, tout ça. Et en fait, Thomas, toi, ça fait quoi, 15 ans que tu vas en Inde, 17
ans ? Voilà, moi, je suis parti à 18 ans après mon bac. J'avais envie de voyager, d'étudier la musique. Et je suis tombé à la télévision sur un très bon reportage sur la musique classique indienne à Bénarès.
C'est un documentaire, non ?
Un documentaire d'Yves Billon, qui s'appelle Bénarès, musique du Gange. Et donc, ça a été la révélation en voyant ce documentaire. Je me suis dit, je vais partir là-bas, essayer de trouver un prof. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, bon, ça m'a énormément plu. J'ai continué d'étudier là-bas, de partir tous les ans à étudier. Et j'ai rencontré, il y a une dizaine d'années, Alexis à Calcutta, alors que je me rendais étudier chez mon maître de musique et que lui étudiait également là-bas. Depuis, on a fait pas mal de concerts ensemble. Et puis, il y a un an, on a rencontré Binkar en France. Voilà, même si on est tous liés par Bénarès, on était tous depuis des années à Bénarès, mais on s'était pas spécialement rencontrés là-bas parce qu'on est aussi beaucoup dans nos chambres à pratiquer.
Bien sûr.
Et puis, en Inde, il y a beaucoup de monde. Et donc, on s'est rencontrés il y a un an et on a eu l'idée de présenter ce projet qui permettait de montrer tous ces instruments méconnus. Et puis de pouvoir jouer tous les trois la musique qu'on aime en adaptant un petit peu avec un nouveau format.
Est-ce que justement, peut-être cette adaptation ou ce nouveau format, est-ce que ça serait la part occidentale de cette musique ? C'est-à-dire votre rapport à vous, cette possibilité qu'on a inculquée depuis longtemps, qu'on peut tous jouer ensemble, ce qui n'est peut-être pas le cas dans les mondes orientaux ?
Alors, bon, après, la jam entre musiciens arrive aussi souvent en Inde, même dans le milieu classique entre musiciens.
Oui, par exemple, moi, j'ai mon maître de musique qui a 5 fils et il joue avec ses 5 fils sur scène. Donc, ils ont aussi des formations comme ça, mais ils sont de la même école de musique. Donc, ils parlent vraiment le même langage. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus évident de jouer à 6 ensemble. Mmh. Quand on vient de familles musicales différentes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que ça se fait pas tant que ça en Inde.
Mmh. Après, l'idée de la musique traditionnelle, entre guillemets même, c'est qu'il y a vraiment une dynamique. C'est très créatif en un sens parce que la tradition, en fait, sert à chaque génération pour apprendre, s'imprégner, et ensuite chaque musicien va créer sa propre identité, sa propre personnalité en s'appuyant là-dessus, mais ça va créer quelque chose de nouveau.
Oui, parce que c'est une musique classique, mais qui est vivante puisqu'elle n'est pas écrite. Donc en fait, à chaque génération, il y a la touche que chacun a apportée et qui va transmettre et qui se modifie au fur et à mesure des générations et qui s'enrichit. Mmh.
Par exemple, le répertoire que vous proposez avec ce trio Vishitra, c'est... uniquement des pièces traditionnelles, ça part de différentes écoles et vous improvisez dessus. Comment ça se passe ?
Alors là, oui, on va jouer plusieurs compositions en fait qui sont propres à nos deux écoles de musique. Et autour de ça, on va improviser. On va un petit peu comme en jazz, on a un cycle avec une mélodie, mmh. et autour de cette mélodie, on va improviser, et puis les percussions également, on va jouer le cycle et, de la mélodie, et le percussionniste va pouvoir improviser lui à son tour également. Donc il y a beaucoup de place, beaucoup de liberté dans cette musique. Ouais.
Parce que pour revenir sur la confrontation des deux instruments mélodiques, on va dire, encore que les tablas soient très mélodiques, mais de cette formation. Comment vous trouvez votre place? Comment ça s'est passé avec Binkra pour réussir à ne pas se marcher les uns sur les autres? Il y a quand même des sonorités qui s'approchent.
Alors voilà, déjà moi à la base en fait j'étudie le sitar depuis plus de 15 ans, mais là pour ce projet là je joue du sourbar, là donc le sitar basse depuis un an. Enfin j'en avais un depuis 15 ans mais je pratique pas sérieusement là. Depuis un an j'en joue quasiment tous les jours. Et donc là pour ce projet voilà, parce que ces deux instruments étaient beaucoup plus faciles à marier, alors qu'avec le sitar ça a provoqué des problèmes rien que pour s'accorder. Et puis on s'est rendu compte, on a fait des essais, et puis que le sourbar et la vichy travina se mariaient vraiment très bien ensemble.
Mais cependant l'un était peut-être plus riche dans les basses et l'autre dans les aigus.
Voilà, ils se complètent, alors qu'en même temps ils se ressemblent beaucoup, mais ils se complètent également énormément.
Après, il a fallu trouver un raga sur lequel vous étiez d'accord pour jouer. Le raga, c'est un peu le cadre mélodique dans lequel ils vont improviser.
Donc là, on a choisi le rag d'Arbari, qui est vraiment aussi un raga très approprié pour le drupad, l'ancien style, le vieux style de musique classique indienne d'Inde du Nord.
Justement, à Cosmopolis, le 29 juin, alors j'ai pas précisé l'heure.
20h30.
C'est gratuit, payant, je ne sais plus.
Ah, c'est payant, c'est 10 payant. Euros.
Ça va.
Et bon, ça va. Il y a à peu près 1h45 de spectacle.
C'est ça. C'était le sens de la question. Et qu'est-ce que vous jouez? Combien de temps? Ça peut dérouler assez longuement, j'imagine.
Ah ben, on joue deux ragas, en fait. Le premier, donc, ce sera d'Arbari, qu'on va vraiment développer, mais avec plusieurs petites parties dedans. Et ensuite, le deuxième rag, Bhopali, sera sous forme de Bhajan, qui en fait est peut-être de la musique un peu plus légère, c'était de la musique dévotionnelle qui était utilisée pour entrer en transe dans les temples. Donc c'est plus des cycles rythmiques assez groovy en 8 ans, alors que sur les autres compositions, on va faire des cycles un peu compliqués en 12 ou des trucs un peu plus longs, du 16 lents. Mais donc le Bhajan, le Raga Bhopali, l'idée c'est ça monte en intensité petit à petit à la base c'est utilisé pour que les gens rentrent en transe dans les temples.
Et en plus ce raga qu'on va jouer en deuxième qui est Bhopali est vraiment très différent du premier. On a voulu aussi présenter ces deux ragas là parce que Darbari est vraiment un raga très classique qui veut dire Darbar en fait en hindi, c'était la cour du roi. Donc c'était vraiment intimiste, il prenait le temps. Alors que le Bhopali, là, c'est plus dans les temples, c'est joyeux, on est tous ensemble et on essaie de se connecter au spirituel. Donc on va essayer de montrer ces deux atmosphères très différentes.
D'accord. Alors on va avoir la chance d'en avoir un petit extrait. Alors je pense pas que ce soit des extraits du raga que vous allez faire maintenant.
Non.
Mais en tout cas, vous allez nous faire écouter déjà les différentes sonorités des instruments. Puisque tout d'abord on part sur le sitar basse, je n'arrive jamais à dire le nom correctement.
Donc le sourbar, oui, j'ai fait un petit peu de sourbar.
Sourbar, avec
ensuite un solo de pakawaj.
Un petit solo de pakawaj, oui, et puis...
Pour un petit peu montrer les sonorités des instruments que vous pourrez découvrir à Cosmopolis le 29.
Et puis après on refera peut-être un petit commentaire avant de vous laisser jouer une deuxième session.
Cette fois au sitar et tabla.
C'est ça. Sous une forme peut-être que les gens ont un peu plus entendu, mais justement, on va pouvoir goûter un peu la différence. Alors, on a installé les instruments et les micros dans une salle un peu plus loin, donc Alexis et Thomas vont aller les rejoindre.
À tout de suite.
C'est Luca Pizzini qui a installé tout un tas de beaux micros pour pouvoir prendre au mieux la sonorité de ces beaux instruments, et on va donc avoir le plaisir d'une session live dans un petit instant, le temps que les musiciens rejoignent la salle avec un joli parquet, on les entend arriver. Le sourbar et le pakawat pour une petite démonstration musicale en direct sur Jet FM. Thomas Jacot au sitar, Alexis Wesgerber aux percussions. Yeah.
Thank you.
Premier moment live, Alexis et Thomas du groupe Vichitra ensemble pour une démonstration des instruments, une démonstration des instruments anciens de musique indienne, comme vous l'aurez entendu. Merci beaucoup messieurs pour cette première session démonstration. On a pu goûter avec plaisir, alors grâce aux bons soins de Luca Pizzini et de ses micros formidables, on a pu goûter un peu la subtilité des sonorités des instruments, sitar basse et puis
pakawatch.
Et décidément, j'arrive jamais à redire le nom de
cette sitar basse.
Sourbar, voilà, sourbar, pakawatch, c'est assez simple. En effet, on voit bien les différences ténues, la manière de jouer, les modalités. Dans ce que vous avez présenté là, ce sont des formes complètement improvisées, mais quand même qui viennent de quoi, d'une modalité, d'un extrait de raga.
Là, en fait, sur le raga que j'ai joué au sourbar, c'est un raga bimpalasi, le raga qui s'appelle bimpalasi, qui est un raga de l'après-midi. Et donc là, en fait, il n'y avait pas de composition. En fait, c'est la partie avant que les percussions rentrent. Et donc, c'est ce qu'on appelle, d'abord, il y a l'alap, en fait, où on présente vraiment le raga, les lignes mélodiques du raga, les notes importantes dans le raga, dans le mode. Et à la suite de ça, j'ai joué un djor et un petit djorjala. Donc, ensuite, on commence à introduire une pulsation dans l'alap. Et puis, la pulsation s'accélère jusqu'à devenir du rythme. Et donc, ça finit beaucoup plus rapide et ça commence sans rythme. Mmh. Et donc là, plus ou moins, tout est improvisé. Après, j'ai bien entendu, j'apprends depuis 15 ans avec mon maître Oustad Imrat Khan, avec qui j'habite souvent. Quand je vais étudier, j'habite chez lui plusieurs mois par an en Inde, à Calcutta ou aux États-Unis à Saint-Louis. Et donc, je joue avec lui tous les jours, je suis baigné dedans. Et donc, en fait, quand on improvise, c'est aussi beaucoup de choses qui ressortent de toute cette imprégnation.
Ah, bien sûr.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont quelque part un peu fixées en moi, qui sont intégrées et qui ressortent sur le moment, mais à chaque fois d'une manière différente selon comment on sent, les énergies autour, l'écoute qu'il y a. Mmh.
D'accord. Et Alexis, pour le pakawatch ?
Pour le pakawatch, en fait, j'ai fait un petit solo en 12 temps, en chotal, on appelle ça. Donc on a un cycle, une structure rythmique. Et puis après, il y a différents jeux rythmiques dedans dans lesquels on va improviser. Notamment, il y a un principe sur lequel j'ai pas mal joué, c'est de remplir différemment la pulse. Par exemple, ça se fait beaucoup en musique indienne, on va remplir petit à petit avec 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc au lieu d'avoir 1, Puis 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et au milieu de tout ça, il y avait quelques compos lorsque j'ai chanté qui, elles, sont fixes, que j'ai appris avec mon professeur, Mohan Cham Sharma, à Delhi. Donc dans ces compositions, en fait, qu'est-ce que je dis? Il y a des balls qui correspondent à des onomatopées, qui correspondent à des frappes sur l'instrument. Par exemple, l'index sur le côté plus la basse en même temps, ça va faire da. L'index uniquement sur le côté, ça va faire na. Et petit à petit, on a un vocabulaire pour élaborer un langage dans le cycle rythmique, créer des tensions, des résolutions, des mouvements, des jeux rythmiques. Et ce qui fait que petit à petit, lorsqu'on apprend les tabla et le pakawaj, on apprend véritablement un langage parlé et une façon de clapper le rythme qui nous permettent finalement de composer et d'improviser sans l'instrument très facilement aussi.
Il me semblait d'ailleurs avoir lu, entendu ou je ne sais plus vu que on commence de toute façon l'enseignement par ça, par les onomatopées, avant même de frapper l'instrument et peut-être même dans toutes les formes instrumentales, y compris mélodiques, il faut connaître ces rythmes-là.
Alors c'est très conseillé, oui, après ça arrive pas à tous les coups, parce que souvent aussi en Inde ce sont des familles de musiciens, donc même s'ils apprennent pas vraiment à jouer des tablas et à chanter proprement les rythmes, ils sont baignés dans cette atmosphère, donc quelque part ils comprennent et ils entendent, mais c'est vrai que c'est toujours conseillé, il y a beaucoup de musiciens qui ont commencé d'abord par faire un petit peu de tabla pour bien...
Et vice versa, pour les tablis c'est un peu de chant, etc.
Exactement, oui, le chant et les... Et les tablas sont vraiment primordiaux.
Mais sur ces, en revanche, pour les tablas, il est vrai que les compositions ou tout ce qu'on joue, mieux on sait les chanter, mieux on sait les jouer et vice versa. Ça va vraiment ensemble dans l'apprentissage. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est oral. Donc si mon professeur, par exemple, et puis ça selon les professeurs, ils n'ont pas forcément répété 10 000 fois. Donc vaut mieux être capable d'attraper la chose. Pareil, j'habite chez lui, donc à 11h du soir, il peut être d'humeur à m'enseigner une composition, il va me dire « Tete kredan, dagetina, kreda, tete kreda, ti da, da, tete kredina, gedatina, kreda, 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 da, da, kreda, da, da, kreda, da, da. » Il va me la dire 2-3 fois, etc. Bon, après, si ça passe pas, je viendrai la redemander dans 2 semaines ou un truc comme ça. Donc, il y a vraiment ce côté d'apprendre les onomatopées, d'apprendre ce langage. C'est vraiment une langue parlée qu'on apprend. Après, il n'y a pas de signification exacte. Sauf en revanche dans mon solo de pakawaj, au milieu j'ai joué ce qu'on appelle un vandana, c'est-à-dire c'est on mélange les balls, donc les onomatopées de frappe, avec du langage. En l'occurrence là c'est un truc traditionnel qui a plusieurs centaines d'années, c'était une ode à Shiva, parce que comme on vient de la ville de Bénarès, on s'est tous rencontrés là-bas, qui est la ville de Shiva, je me suis dit je vais mettre ça dans le spectacle, et donc ça mélange vraiment les balls de tabla, da, tete, kreda, tete, avec... Chhatrapati, Jagatapati, Devapati, qui est du langage parlé en Inde, ça. Donc ça se fait beaucoup en pakawaj de mélanger ces deux choses-là. Et donc, pour moi, c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup de choses dans le hip-hop qui sont très liées à ça, quoi.
Oui, dans la scansion. Oui. Est-ce que c'est un jeu entre soi et soi? Par exemple, énoncer, comme ça, les onomatopées, puis les jouer, ou est-ce que c'est comme une espèce d'effet d'annonce
On va les... Alors, ça peut être un effet d'annonce, parce que là, littéralement, j'annonçais ce que j'allais jouer. Mm-hmm. Je ne me répondais pas d'une manière différente, mais c'est vraiment aussi dans l'interprétation et dans l'incorporation de la composition, mieux on sait la chanter, mieux on va pouvoir mettre les accents, la rendre vivante, etc. Ça permet vraiment d'avoir le son plus en main, mieux en main, quoi. Et d'être plus carré rythmiquement, tout ça, le fait de le chanter, finalement.
C'est un apprentissage sans fin
Oui.
Bon, on me dira tout apprentissage est sans fin, mais on a parfois l'impression de pouvoir être diplômé de ça ou ça.
Ouais.
Vous vous sentez encore
tout on jeune, est fini ce jour,
tout
après.
Jeune débutant ou...
Pas tout jeune débutant, parce qu'on a aussi, là toujours, on habite en Inde, à Bénarès, et on voit aussi beaucoup de jeunes qui commencent, qui apprennent le sitar depuis 2-3 ans, donc on voit quand même qu'on a fait du chemin aussi, mais après, oui, si on se compare à nos maîtres de musique, on a encore énormément de route, oui.
Et enseigner, par exemple, la musique, c'est quelque chose qui pourrait arriver, qui vous arrive déjà?
C'est ce qu'on fait, moi je fais pas mal à Nantes, en fait, on est une association qui s'appelle Utana, on enseigne le chant drupade, le sitar, en l'occurrence avec Thomas, et les tablas. Et on le fait. Alors après, la difficulté souvent en France, pour ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir enseigner à des jeunes, par exemple, qui ont le temps. Il y a une affaire de ça, c'est souvent, moi j'ai des élèves qui ont 25, 30 ans, voilà, qui ont des enfants, qui ont une vie, un travail, donc ne serait-ce même qu'une demi-heure de tabla par jour, c'est un peu difficile. Mmh. Et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est vaut mieux être un petit peu régulier et avancer comme ça, mais ça, c'est vaste, donc. Mmh. Donc on enseigne, mais pas. Enfin, j'enseigne encore à personne comme mon prof m'enseigne à moi, parce que comme j'habitais chez lui, comme on y a évidemment dédié beaucoup de temps, etc. On n'apprend pas les mêmes choses et pas à la même vitesse. Et donc quand j'ai des élèves qui viennent à la maison, je me dis je pourrais leur enseigner pendant 25 ans.
C'est ça.
Mais bon, faut qu'ils tiennent jusque là, quoi.
C'est vrai qu'on a l'image peut-être un peu cliché de l'immersion.
Oui, non, mais c'est
ce que vous avez fait en allant sur place, en rencontrant les gens, en vivant avec eux. C'est une des meilleures manières d'y arriver.
Bah, d'autant plus avec cette musique ou, enfin, en tout cas, le style que j'apprends, qui est le style de Benares. Avant, c'était surtout une musique qui se transmettait en famille, c'est-à-dire de père en fils, etc., ou dans la famille. Et petit à petit, ça s'est démocratisé, etc. Mais il reste quand même des choses qui correspondent plus à telle famille de jeux, etc., et que finalement, on n'apprendra pas si, en un sens, on ne fait pas littéralement partie de la famille. Mmh. C'est en ce sens-là, c'est peut-être un peu mafieux comme système, mais en même temps, ça permet de garder des identités stylistiques assez fortes, je pense. Et donc, ça suppose d'y passer beaucoup de temps, au-delà du temps de musique. Par exemple, si j'habite chez mon prof, faut faire la vaisselle, des trucs comme ça. Enfin, y a pas sous... C'est pas comme une leçon, on va aller une heure, puis toutes les semaines, etc., on va payer tant. Et
c'est une relation qu'ils appellent
une relation, voilà.
Guru Shishya Parampara. Guru, donc le gourou, et Shishya, l'élève, et Parampara, la tradition. Et donc, il y a aussi des cérémonies, il y a le rituel du Ganda Banshagird, où en fait, on se fait accepter par la famille musicale dans laquelle on apprend, et donc on a un cordon rouge au poignet droit. Donc, qui montre qu'on est relié à toute la lignée des musiciens. Donc, on habite avec eux. Donc, il y a quand même aussi, dans chaque école, préserve un petit peu son répertoire. Et il faut un petit peu rentrer dans l'école pour avoir droit aussi à toutes ces connaissances. Et donc, après, ça passe par une relation d'entraide entre le gourou et l'élève. L'élève qui va l'aider du mieux qu'il peut pour dans la vie de tous les jours. Et puis, en échange, il a la connaissance.
Mmh. D'accord. Alors... Est-ce que vous avez, on va vous réécouter en live dans un instant, est-ce que vous avez enregistré ensemble Vichitra? Parce que là on a écouté tout à l'heure Binkra,
oui.
Avec la Vichitra Vina, mais il y a quelques lives qui circulent, mais est-ce que vous avez le projet des trio?
Donc on était en résidence à Benares un mois cet hiver, et mm-hmm. puis là donc on est dans notre première tournée ensemble, qui est un peu une tournée de chauffe, et à la fin de laquelle justement on enregistre courant septembre... tous les trois ensemble.
D'accord.
On s'est dit plutôt faire la tournée avant, etc., histoire qu'on ait les choses bien en main, mm-hmm. pour enregistrer ensuite.
D'accord. Vous enregistrez en France ou...
Probablement. Alors, on enregistre probablement en France et probablement dans le sud de la Corrèze.
Ok.
Ouais.
D'accord.
Parce qu'il y a un ingé son là-bas, Julien Jugan, qui s'y connaît très bien en musique indienne, mm-hmm. avec un petit studio là-bas.
Parce que ça requiert, on l'a vu là, pour une installation un peu rapide, ça requiert quand même un minimum de micro et d'ambiance aussi pour récupérer les subtilités, les sonorités. Typiquement, c'est une musique qui, presque c'est une hérésie de l'avoir amplifiée ou finalement ça se comporte assez bien. Ce rapport à la scène, par exemple, qui n'était pas, comme vous le disiez au début, cette musique n'était pas dédiée à la scène, elle était plutôt ritualiste.
Oui, alors c'est vrai que les instruments sont tellement magnifiques par leur son acoustique qu'en général, ça serait idéal d'entendre le vrai son qui provient de l'instrument et pas des enceintes. Mais bon, après, quand on a des concerts où on a plus de 25-30 personnes, on est obligé de s'amplifier. Et puis, bon, bah, quand le son est bien fait, ça rend quand même très très bien. Mmh. Et puis, on est habitué, malheureusement, en Inde, ils jouent la plus belle musique, mais c'est très difficile d'avoir un très bon son en concert en Inde. Donc nous, on est vraiment habitués aussi en Inde à vraiment écouter la musique et pas toujours la qualité sonore.
Le système à la
rage. Voilà, exactement.
Mmh. On est tous à écouter des enregistrements des années 50, des vieux maîtres, de l'âge d'or, tout ça. Mmh.
On écoute vraiment la musique plus que la qualité de l'enregistrement. Ouais.
Mais après, c'est une musique qui joue beaucoup en bêta, qu'ils appellent ça. C'est les salons de musique un peu, c'est... Donc pour une petite assemblée, voilà, chez quelqu'un, 25-30 personnes, et ça c'est un format moi que je préfère personnellement parce que il n'y a rien de mieux que de jouer en acoustique. pour moi. Mais...
faut juste pouvoir faire rentrer la vie de Vitravina, quoi.
Voilà.
Faut pas un tout petit salon.
C'est ça.
D'accord. La tournée dont vous parliez, alors ça commence par cette date nantaise.
Non, c'est la dernière.
Ah, c'est la dernière.
Ouais, ouais.
D'accord.
Je pensais
que la première était en Inde. On a fait un premier concert à Bénarès après notre mois de résidence. Puis ensuite, on a commencé dans le sud de la France, à Toulouse, et puis on est remonté par, on est passé par l'Ariège, là où habite Binkar. Et puis on est allé à Bordeaux, et puis on est remonté en Bretagne, à Rennes, la Gascie, et puis à Nantes,
Paris
maintenant,
aussi.
Paris.
Mmh.
D'accord. Donc il ne faudrait pas louper ce concert de Cosmopolis, puisque
c'est le dernier.
De la
tournée.
Oui. Il y aura probablement d'autres choses si vous enregistrez.
Oui, oui, certainement. L'année prochaine. Oui.
Mmh. En attendant, si ça vous dit, je vous propose d'aller de retourner vers les instruments.
Ouais,
cette fois pour un duo sitar-tabla. Donc on retrouve tout de suite Thomas et Alexis qui rejoignent la salle où on a disposé des micros avec Lucas qui prend le son de tout ça et qui nous le renvoie dans la radio. Voilà, les musiciens s'installent. Et en direct sur Jet FM, un peu de musique indienne, sitar et tabla.
Thank you.
Le temps de venir de la petite salle où étaient installés les musiciens, Alexis Welkerber au tabla et Thomas Jacot au sitar pour représenter le trio Vigitra. Il manque le troisième musicien souffrant ces temps-ci, mais qui sera bien présent au concert du 29 juin prochain à Cosmopolis, Binkar à la Vigitra Vina. Voilà, on vient d'écouter donc un duo sitar tabla. Par les bons soins de Luca Pizzini qui a réalisé la mise en son de tout ça. Merci beaucoup Luca. Merci. Merci messieurs, merci Alexis, merci Thomas. Oui, vous devez avoir bien chaud.
Merci beaucoup.
C'était assez intense.
C'était là, on a fini avec Raksharu Kefi.
Raksharu Kefi. Voilà. D'accord. Qui est, qui veut dire
qui est un raga qui vient du sud de l'Inde. Mm-hmm. Le mot, je crois pas qu'il ait vraiment une signification. Je pense plus que c'est un nom. Je sais pas, peut-être d'une divinité. Et donc c'est un raga qui vient du répertoire, parce qu'en Inde du Nord, dans la musique classique indienne, il y a vraiment deux styles, le style d'Inde du Nord et le style d'Inde du Sud, l'Hindoustani et le Carnatique, même s'ils ont vraiment les mêmes racines. Et donc ils peuvent un petit peu communiquer, ça fait depuis 50 ans qu'ils échangent un petit peu aussi des ragas. Et donc il y a pas mal de nouveaux ragas qui sont empruntés du répertoire du Sud de l'Inde. Mmh.
D'accord. J'observais quand vous jouiez... des moments voilà où chacun semble vraiment trouver sa place, et puis des moments où les regards sont très importants et la communication entre vous semble très important pour s'amuser, peut-être contrecarrer un peu l'autre, vraiment jouer dans le sens premier et enfantin du terme.
Oui, on s'amuse beaucoup, on joue beaucoup, parce qu'il y a donc ce cycle. Là, donc on a joué en premier un Rupak, qui est un cycle de 7 temps. Et donc, à l'intérieur de ça, on peut faire plein de petits jeux rythmiques qui peuvent un petit peu déstabiliser l'autre, ou mettre des silences sur des temps forts, des choses qui sont un petit peu déstabilisantes et qui peuvent créer un jeu musical. Et donc, tout le talent d'Alexis au tabla, c'est de... Parce qu'en fait, il y a un instrument soliste, souvent musique classique indienne, et un instrument qui accompagne. Et donc, c'est souvent moi qui vais donner des idées. Mm-hmm. Et ensuite, Alexis doit, à partir de ces idées aussi, accompagner et créer un jeu. Donc on est content, si vous l'avez bien ressenti, le plaisir qu'on prend tous les deux à jouer.
Oui, ça se sentait complètement. Une question que je ne vous ai pas posée au tout début, c'est comment, alors tu y as un peu répondu Thomas, mais comment on tombe dans la musique classique indienne, même tout simplement comment on tombe sur un instrument comme le sitar ou les tablas. Il y avait ce documentaire dont tu parlais, mais avant ça, il y a des sonorités qui apparaissent à un moment.
J'ai la chance, moi je suis né, ma mère est professeure de yoga. Et en fait, quand j'étais tout jeune, en fait, il y avait le professeur, le maître de yoga indien de mes parents qui habitait chez nous, qui enseignait à mon père et à ma mère. Donc, on avait pas mal d'élèves et d'indiens qui venaient à la maison depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai été un peu baigné aussi dans toute cette atmosphère sonore et musicale.
C'est ultra familier pour toi.
Voilà, c'était assez familier.
D'accord. Donc, c'était assez logiquement
Donc, voilà, j'ai mon oncle aussi qui est professeur piano. Donc, il m'avait donné un petit peu comme ça des cours piano. Je gratouillais un peu de guitare. Mais je me sentais vraiment de faire des études de musique, mais j'avais vraiment pas trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, vraiment. Et puis voilà, j'ai eu ce documentaire qui m'a donné la révélation sur ce que j'avais vraiment envie d'apprendre.
Mmh. Et Alexis, pour le
Moi, ça a été complètement par hasard un dimanche. Je m'intéressais aux percussions, mais je faisais un peu de congas. Et je suis allé voir un documentaire qui s'appelle « Zakir and Friends ».
Sur Zakir Hussain.
Sur Zakir Hussain, voilà, sur plein d'autres percussionnistes, mais essentiellement sur Zakir Hussain. Et donc je suis rentré dans la salle un peu par hasard. Et là, je suis tombé sur un solo de tabla qui était diffusé dans le film, et ça m'a collé une grosse claque. Je me suis dit que c'était exactement en fait la sorte de vibration, de timbre, tout ça qui m'attirait, quoi. Et donc avant de sortir du film, je me suis dit il faut que je fasse des tablas, quoi.
D'accord.
Et après, j'ai mis 4 ans à y aller, en fait. Je faisais des études, tout ça. Puis j'ai fini, et puis je suis parti après. Mmh. Après, d'essayer de trouver un bon prof, débarquer à Calcutta, c'est un peu grand, on connaît pas, c'est un peu dur au début. Et puis au final, j'ai trouvé un professeur et de fil en aiguille, jusque-là. Quoi. J'en ai changé entre-temps. Et puis,
voilà. L'apprentissage se fait, comme on le disait, avec des professeurs, mais est-ce que pour vous, ça se faisait aussi à l'écoute de tous les grands maîtres,
de tous
les disques qui existent
C'est la moitié du boulot,
Ou même d'aller voir les concerts.
Les concerts toute la nuit, à Calcutta, il y avait beaucoup de full night programmes de 8h du soir à 8h du matin, avec des thés entre. Mm-hmm. Beaucoup, vraiment beaucoup de concerts, et tous gratuits. Les concerts, la plupart des concerts de musique classique indienne sont sponsorisés par des entreprises ou des trucs comme ça. Donc l'entrée est gratuite. On peut vraiment voir des grands maîtres facilement. Et puis en France notamment, pour garder un peu l'état d'esprit, le mood, c'est important d'en écouter, ça sauve un peu, ça permet de continuer à travailler quand on est loin du prof aussi. Et moi, pour ma part, j'ai eu un gros travail d'analyse aussi et d'écoute du style de la famille de mon prof, comprendre un peu par moi-même comment ça marchait. Mmh. Donc, vraiment beaucoup d'écoute, ouais.
Oui, parce que j'imagine que isolé en France, c'est moins facile de pratiquer. Est-ce qu'on se reconnaît vite, est-ce qu'on se fédère vite avec d'autres musiciens un peu partout sur le territoire ou...
Il y a une scène française petite mais très riche en musique indienne avec des gens de bon niveau aussi. Donc on se connaît très vite. Après, pour trouver le temps de jouer ensemble sur le long terme, c'est autre chose. Bon, il se trouve que Thomas habite juste à côté de Nantes, donc c'est assez facile là-dessus. On se rencontre pas trop en fait. Il y a des gens dans toutes les villes de France. Après, chacun reste un peu dans son coin. Parfois, il y a un truc collectif qui a été lancé à Paris, je crois, la Société Secrète des Joueurs de Musique Indienne, où là, il y a une jam mensuelle.
Okay.
Mais au moins, c'est gratuit, c'est l'occasion pour les gens de se rencontrer et tout ça. Après, entre les gens qui apprennent ici un petit peu, les gens qui sont en Inde et qui sont pas là, déjà ceux-là ont du mal à se connaître parfois. Mmh. Vraiment, la scène française est assez, assez exceptionnelle, je trouve, en Europe, en musique indienne. Vraiment, dans chaque danse, que ce soit le Kathak, Bharatanatyam, Odissi, chaque instrument, chaque style chanté, il y a vraiment 2-3 personnes qui sont bons, quoi. Ça, c'est rare.
Vous disiez tout à l'heure que la tournée que vous faites avec Vichitra, qui s'arrête le 29 juin à Nantes, a commencé à Benares.
Oui.
C'est ça. Comment ça a été reçu, votre trio là-bas? Je veux dire, on expliquait au début de l'émission que c'était un peu insolite de mettre ensemble ces instruments, le sitar basse et la Vichitra Vina.
C'était au sein d'un festival toute la nuit encore, de 5h du soir à 7h du matin. Donc l'idée, c'est qu'il y avait 13 groupes ou duos qui allaient l'un après l'autre sur scène. Donc il fallait être assez rapide. On avait 40 minutes chacun. Bon, il se trouve que nous, avec tous ces instruments, tous ces micros, etc., déjà on a mis une demi-heure à faire la balance, etc. Et puis après, comme on était trois sur scène, on a joué pendant 1h10. Donc les autres musiciens l'ont un peu mal pris, qu'on prenne autant de temps, mais sinon ça a beaucoup surpris, effectivement, parce que c'est vraiment un truc qui s'est jamais vu, et je pense que le mélange des deux, Thomas et Benoît sont très fidèles à leur style, etc. Donc quand ils allaient faire un truc comme ça, ils allaient pas juste faciliter la tâche pour faire un truc écoutable aux gens. Donc ça.
Et puis c'était assez attendu aussi comme événement, parce qu'à Benares, en fait, Benares c'est une très grande ville en Inde, mais nous on habite près du Gange. Et donc là, c'est la vieille ville et c'est un petit peu comme un village. Donc on connaît aussi beaucoup de musiciens indiens et occidentaux, japonais, enfin partout dans le monde, qui viennent aussi comme nous étudier chaque année. Donc on est comme ça un assez grand réseau à Benares. Et donc on se connaît, mais on s'entend pas toujours en concert non plus. Et donc là, vu qu'il y avait Binkar qui est le joueur de Vichitra Vina, et que ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas joué à Benares depuis plusieurs années, donc c'était très attendu de le revoir sur scène. Mmh. Et puis moi, en ce qui me concerne, c'était la première fois que je jouais du sourbar sur scène aussi, donc il y avait tous les gens qui me connaissent depuis 15 ans au sitar qui étaient assez intéressés de voir. Et puis pareil pour Alexis Opakawal, si tu as eu l'occasion de jouer avec Lise déjà cette année, mais c'était vraiment très attendu, et puis les gens avaient l'air très très contents et très heureux. Par cette nouveauté, un petit peu ce nouveau format. Je trouvais que ça prenait très bien ces deux instruments ensemble, la Vichitra Vina et le sourbar.
D'accord. Donc j'imagine que le disque que vous allez enregistrer à la fin de l'été pourra être attendu lui aussi par les spécialistes du jeu.
Bah oui, parce que là, pendant toute la tournée, du coup, on a vendu nos CD en séparé. C'est vrai que les gens, ils auraient bien aimé avoir le CD de nous trois ensemble. Donc oui, on espère qu'on va bien le vendre une fois qu'on l'aura fait.
Bon, faudra revenir... nous voir, en parler, en diffuser ici dès qu'il sera prêt.
Avec plaisir.
Et en attendant, merci beaucoup d'être venu avec les instruments, d'avoir proposé cette session live, cette démonstration, d'avoir discuté de tout ça. Juste pour terminer, on va écouter justement un des grands maîtres.
Alors c'est Oustad.
C'est Oustad Vilayat Khan, c'est le grand frère de mon maître de musique.
D'accord.
Voilà, donc le, pour en ce qui me concerne, le plus grand joueur de sitar au monde.
Accompagné au tabla par Kiffen Maharaj, qui est le grand-père de mon prof. C'est une famille de musiciens aussi. Voilà.
Donc voilà, donc nos maîtres jouaient ensemble.
Voilà, nos maîtres jouent ensemble, donc on s'est dit.
C'est assez logique que vous jouiez ensemble, ouais, voilà. C'est ça. Il y a une tradition. Merci beaucoup encore une fois, Alexis et Thomas. Et puis, je rappelle qu'on vous retrouve donc en trio, Vichitra, donc avec Binkar, Vichitra Vina. Ce jeudi 29 juin à Cosmopolis à 20h30 pour 10 euros. Il oui. faut réserver quelque part.
Oui,
faut...
alors. Alors, au 07
promo.
Au 07 81 38 87 66 07 81 38 87 66 et donc c'est jeudi 29 juin donc jeudi en 8.
C'est ça. Ouais. Je remettrai sur le site de Jet les références pour qu'on puisse vous contacter si
Merci. Envie.
Merci encore une fois d'avoir pris du temps pour faire cette chouette émission de radio et à très bientôt. Donc on termine avec
Rag Pouria par Vilayat Khan et Kiffen Maharaj.
Très bien, 18 minutes de.
Oui, de... ça va envoyer.
Ça va envoyer.
Ouais, quand même.
C'est parti.